Depuis la nuit des temps, elle frappe sans prévenir. Et ses ravages sont terrifiants. La malédiction des trois corbeaux arrive sur Europe 1 et personne n'y est préparé. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un grand chirurgien, chef de service à l'hôpital Georges Pompidou, que Franck Ferrand reçoit aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Jean-Noël Fabiani est en effet un de nos plus grands cardiologues, mais il est aussi historien de la médecine. Et avec lui, en compagnie de notre ami Jean-François Lemoine, le médecin d'Europe 1, c'est un des grands physiologistes de l'histoire de la médecine que nous allons évoquer maintenant. On peut même dire qu'il est le fondateur de cette discipline, Claude Bernard.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On s'est beaucoup moqué des médecins de Molière, de tous ces diafoirus qui, au grand siècle, cachaient leur ignorance derrière un latin de cuisine, ou en tout cas d'amphithéâtre, à la fois opaque et ridicule. Pour garer, segnarer les remèdes universels de la purge et de la saignée, dont la combinaison diabolique devait tuer tant de malades, achevèrent de déconsidérer une faculté dont la réputation de cuistrerie et d'inefficacité était devenue un lieu commun. « Ne croyez-vous pas, Corvisart, demandait encore Napoléon à son médecin, que vos semblables tuent plus de gens qu'ils n'en guérissent ?» Ce qui entravait cette médecine ancienne, au-delà de son dogmatisme souvent aveugle, c'était le respect très déférent d'une tradition qui bien souvent remontait à l'Antiquité et qui avait depuis longtemps perdu sa souplesse, sa logique, son adaptabilité, en un mot, son intelligence. Or, les images toutes faites qui nous viennent à l'esprit, je pense à ces chapelets de médecins tout de noir vêtus, mine grave, voix sourde et chapeaux pointus, agglutinés comme des vautours au chevet des grands personnages de l'époque. Tous ces clichés ne devraient pas nous faire oublier la naissance, à la même époque, d'un empirisme médical voué à remplacer la théorie par une pratique et les vieilles idées fausses par des constats concrets, pleins de vérité. La meilleure connaissance de l'anatomie avec le temps, une connaissance permise notamment depuis le XVIe siècle par le développement des dissections, la conversion et l'enseignement de l'idée d'expérience et même d'expérimentation, autrement dit l'ouverture lente mais profonde des mentalités à la démarche scientifique, tout cela a commencé à porter ses fruits et cela dès la fin du XVIIe siècle. On a d'abord découvert le mécanisme de la circulation sanguine, ça c'est une étape majeure, et puis on a installé une approche dynamique vivante de l'anatomie, la physiologie, au cœur de la médecine. C'est ce que les historiens de cette discipline appellent la première révolution biologique. Et puis très vite, dès le milieu du XIXe siècle, alors une autre révolution biomédicale va s'attacher à la compréhension du mécanisme de la vie et de la genèse des maladies. D'où viennent-elles ces maladies? Comment se propagent-elles? Se développent-elles au sein de l'organisme? On peut rester dans le sourire et la caricature, mais en vérité, c'est bien une nouvelle science qui est à ce moment-là en train de voir le jour. Une science qui va radicalement bousculer la médecine, une approche fondée uniquement sur l'examen clinique jusque-là. Hein. Vous savez, on observait le patient, on le palpait, on l'interrogeait un peu dans le meilleur des cas. Tout ça va évoluer vers ce qui devient la biologie médicale. Eh bien, les deux grands hommes de cette révolution, bien avant Pasteur, qui sera là un peu plus tard pour tirer quelques marrons du feu, si je puis dire, les deux grands noms sont ceux de François Magendie, donc le modèle du docteur Maugredi de Balzac, vous savez, et puis qui est le fondateur de la physiologie expérimentale, le premier découvreur du système nerveux, qui établit la primauté des faits sur tous les dogmes, et puis son meilleur élève, et on est là sous le règne de Louis-Philippe, son successeur désigné, à la mémoire duquel est restée attachée la notion de révolution biologique, Claude Bernard. Bernard a rencontré Magendie à l'Hôtel Dieu en 1840. L'année suivante, il est devenu son préparateur au Collège de France, tout en préparant lui-même sa thèse sur le suc gastrique. On peut dire qu'il était déjà sur une voie toute tracée. On peut dire aussi que cette voie, il allait la suivre avec d'une extraordinaire pugnacité. C'est à lui, c'est à Claude Bernard que nous allons consacrer cette émission. Alors, je sais bien que nombre d'entre vous ne le connaissent pas encore, et parmi ceux qui le connaissent, la plupart le résument à un paragraphe de leur manuel de biologie au lycée. Eh bien, à tous, ce que je propose, c'est d'aller à la rencontre du plus grand physiologiste de tous les temps.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et au cœur de l'histoire de Claude Bernard, aujourd'hui, on en parle avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Jean-Noël Fabiani, chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou et professeur à l'université Paris Descartes, ainsi que Jean-François Lemoine, médecin d'Europe 1, que vous retrouvez ce dimanche dans l'émission Pourquoi docteur entre 13 et 14 heures.
Bonjour messieurs, je suis ravi que vous soyez là, professeur Fabiani. Vous nous aviez éblouis l'autre jour avec les histoires de la première greffe cardiaque. C'était, nous étions à l'anniversaire, c'était le 45e anniversaire de cette opération du professeur Bernard. Et puis, bien sûr, Jean-François Lemoine, que connaissent tellement bien les auditeurs d'Europe 1.
Bonjour,
c'est assez rare quand même, Jean-François Lemoine, une émission consacrée à Claude Bernard, parce que Pasteur, alors oui, à toutes les sauces et autant qu'on veut, mais Claude Bernard, il est presque oublié.
Oui, j'étais venu pour Bernard parce que je l'avais connu. Je vous rassure tout de suite, j'ai pas connu Bernard. Mais j'allais dire, c'est tellement difficile de laisser son nom dans l'histoire de la médecine. Regardez, chaque siècle ou chaque année, on est entouré de plein de médecins qui sont importants. C'est les nôtres. Mais est-ce qu'ils vont laisser leur trace?
Oh,
peut-être Jean-Noël
Fabiani. Celui qui est avec nous là où
et la chirurgie cardiaque de Pompidou, qui est formidable. Mais Claude Bernard, c'est quand même notre papa. Moi, je dirais que j'ai deux papas, j'ai Hippocrate et Claude Bernard. Ça fait chic.
Fait chic.
Un grand-père et un père.
C'est, voilà, c'est plutôt un arrière-grand-père et un père, voilà. En fait. Restera à trouver le grand-père entre les deux à une période d'ailleurs sans doute plus difficile. Ah, voilà, oui, ça c'est le.
Je parlais pour
l'inventeur de la chirurgie, en quelque sorte. Alors, ce Claude Bernard, on va évidemment venir à sa vie, on va essayer de dérouler cette existence assez extraordinaire ensemble. Mais ce qu'il faut peut-être commencer par dire, c'est qu'il s'inscrit certes dans la continuité de son maître, mais il s'inscrit surtout et d'abord en rupture avec son temps et avec toute la tradition.
Absolument, il est extraordinairement novateur. Il ne faut pas oublier que la médecine dans les hôpitaux du 19e siècle, c'est avant tout une médecine qui s'intéresse à, comme vous l'avez dit, la clinique. On observe des malades, on observe des signes, on essaye de faire des diagnostics, parfois même on y parvient, on n'a pas grand-chose pour les traiter, mais il n'y a pas dans l'idée de qui que ce soit d'aller doser du sucre, du sel, du poivre,
de faire en quelque sorte de la chimie médicale.
On ne fait pas, ça n'existe pas dans les hôpitaux du 19e siècle, il n'y a pas de laboratoire et toutes les maladies métaboliques, et Dieu sait, on le sait maintenant, combien elles sont importantes, combien elles ont un rôle fondamental, eh bien on les ignore totalement. Et pour tout dire, les grands patrons de l'époque considèrent ça comme tout à fait secondaire et sans aucun intérêt.
Et on peut même imaginer, alors évidemment moi non plus je n'y étais pas, mais on peut même imaginer qu'ils regardent ça comme une sorte de folklore. Il devait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces chimistes, là, ces doseurs, de quoi se mêlent-ils?
Mais absolument, et d'ailleurs nous parlions il y a un instant de Pasteur. Dieu sait si Pasteur a été important, mais ce pauvre Pasteur, il n'était pas médecin.
Et non.
Il n'était que chimiste. Et alors, un chimiste qui se permettait d'aller donner des conseils à des chirurgiens ou à des médecins des hôpitaux, mais quelle honte!
Finalement, vous nous avez dit, Jean-François Lemoine, qu'il était votre papa en tant que médecin. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est, d'une certaine façon, un modèle pour toute une génération de chercheurs?
C'est la médecine moderne qui va découler de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine par les preuves. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ne cherchait pas de preuves, on regardait. Mais on parlait de Pasteur. Il y a une anecdote toujours qui me fait rire. C'était quelqu'un qui avait connu Pasteur,
ouais.
Qui me disait, un jour, Pasteur était en train d'expliquer ce qu'étaient les microbes, et le grand patron de l'époque disait « Monsieur Pasteur, regardez cette aiguille. Si j'ai un de vos microbes au bout, je le transperce, il va mourir. Et s'il n'est pas transpercé, il va glisser le long de l'aiguille. » C'était quelque chose d'absolument impossible à expliquer pour Pasteur. Ben, pour Claude Bernard, c'était pareil. La médecine par l'épreuve, il avait vu l'intuition. Mais je crois que c'est son itinéraire qui explique pourquoi.
Alors,
il est arrivé par là.
Venons-en à cet itinéraire et d'abord donc à son enfance et à ses origines bien modestes, disons-le, Jean-Noël Fabiani.
Tout à fait, il est modeste, sa famille ce sont des viticulteurs, il fait des études comme on le faisait à l'époque, grâce aux jésuites d'ailleurs. Je crois qu'il échoue même au baccalauréat.
Oui, tout à fait.
Il a une vocation immédiate qui est d'être auteur dramatique.
Alors, c'est théâtre. Mais ça part bien, vous trouvez pas?
Ça part très bien.
Fils de viticulteur voulant faire du théâtre, pas très bon dans les études.
Ça marche pas très.
Il faut se remettre dans le contexte, évidemment, de cette époque. Il naît en 1813, c'est-à-dire à la toute fin de l'Empire. Donc, à l'époque où il pense faire du théâtre, on est sous la Restauration, juste avant la monarchie de Juillet. On est dans une époque où le théâtre est le grand art majeur de, c'était l'équivalent tout simplement du cinéma ou des séries télé d'aujourd'hui, et il veut aller tout simplement dans le milieu le plus brillant, celui qui rapporte le plus et qui est, comme beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui veulent faire de la télé ou du cinéma.
Vous avez dit, c'est exactement un enfant de notre temps.
C'est ça.
Dans un temps où c'était pas forcément pareil. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas si facile que ça de faire des études quand on était fils d'un viticulteur.
Non, c'est vrai.
Alors c'était pas un mauvais écrivain, du reste on s'en rend compte dans les rapports qu'il a
quand
pu faire.
Quand on lit ses livres, comme j'ai eu l'honneur de les lire.
Ah oui,
ah bah si, quand même. L'introduction à la médecine expérimentale, c'est vraiment un pavé pour un médecin. Eh bien, il a une patte d'écrivain, incontestablement. Et même ses expériences, quand il les raconte avec un certain talent. Alors, ne disent, c'est pas Racine non plus, faut pas exagérer, hein, mais. Mais alors, on lui donne le conseil à ce moment-là de dire, bah écoutez, finalement, ça marche pas tellement bien ce que vous avez fait. Étudiez donc la médecine.
Oui. Il va entrer comme, parce qu'il faut bien lui trouver quelque chose à faire, à ce jeune homme qui, effectivement, n'a pas pour l'instant tellement brillé. Il est originaire, il faut dire, de la Bourgogne, du Beaujolais.
Beaujolais.
En fait, ses parents sont effectivement vignerons dans le Beaujolais. Et on lui dit, il y a là un poste d'apprenti, vous allez entrer comme préparateur dans une pharmacie.
Il faut voir qu'il a 18 ans, il a zéro diplôme. Ouais. C'est quand même, il commence, c'est pas facile. Et on dit qu'il a fait des études de pharmacie que nenni, il n'a pas fait d'études de pharmacie. Il a été travailler dans une pharmacie, parce que son père lui a dit,
sur le tas.
T'es gentil Claude, mais il faudrait peut-être aller se mettre à trouver à manger. Donc il est parti dans une pharmacie.
Ça a d'ailleurs été important, certainement.
Bien sûr. Ah, mais c'est pas,
qu'il a appris les méthodes de paillasse et de laboratoire, ça a sans doute été important, parce que par-dessus ce fait qu'il est préparateur en pharmacie, il va faire des études de médecine. Ses études se passent bien, il fait de bonnes études. Malheureusement, il n'est pas reçu à l'agrégation de médecine. Et il ne deviendra pas, finalement, celui qui va soigner les malades. Et il va donc se diriger vers une autre voie. Et là, les rencontres de la vie comptent. Et la rencontre avec Mingindy, que vous avez évoquée tout à l'heure, est fondamentale. D'autres rencontres sont aussi fondamentales.
Alors on va venir à cette rencontre avec Mingindy, qui a littéralement décidé de son existence. Juste un mot pour qu'on comprenne bien dans quel milieu il va faire sa première formation. Les pharmacies de l'époque, en 1840, c'est pas du tout les pharmacies d'aujourd'hui. On n'est pas là pour vendre des médicaments déjà fabriqués. Ouais. On prépare, on fabrique, on dose à longueur de journée.
C'est important parce que je sais pas si je me trompe, mais j'ai le souvenir qu'il passe le bac et il commence ses études de médecine à 34 ans. Il me semble, Il commence très tard.
Oui.
Et avant, chez un pharmacien où il voit les ravages de la prescription n'importe comment, des médicaments donnés sans preuve, sans aucune logique. Et je crois qu'un esprit, en fin de compte, il est peut-être, je sais pas, si professeur Fabiani, vous serez d'accord avec moi, mais il arrive un peu pur dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il a, c'est sûrement un type d'une intelligence incroyable qui arrive sans idée préconçue et qui voit les ravages de l'amateurisme de l'époque.
Eh bien, ces ravages, il va essayer de lutter contre. C'est ce que nous voyons dans un instant.
Allegro, Faust est un opéra en 5 actes de Charles Gounod, créé au Théâtre Lyrique le 19 mars 1859.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire aujourd'hui de Claude Bernard, avec vous Franck Ferrand et vos invités, Jean-Noël Fabiani, chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou et Jean-François Lemoine, médecin chez Europe 1.
Alors, nous allons continuer, évidemment, nous allons suivre Claude Bernard sur cette espèce de voie ascensionnelle, extraordinaire, mais je ne résiste pas au plaisir de vous demander, professeur Fabiani, de nous redire ce que vous étiez en train de dire pendant l'interruption, parce que on était vraiment dans l'arrière-boutique du pharmacien, là, hein, comment on fabriquait à l'époque, chaque pharmacien faisait ses propres médicaments.
Ah, chaque pharmacien faisait ses médicaments, il avait un pilon, un mortier, il écrasait les poudres, il les mélangeait, il les mettait dans du pain qu'on appelle un cachet qu'il fermait et on allait porter cela dans du... En général, c'était des grands sachets de papier roulé et on donnait la préparation qu'avait fait le monsieur Purgon de l'époque.
Exactement.
Vous vous souvenez pas des cachets de notre enfance?
Moi, j'avais pas de cachet comme ça.
Mais si, mais on a pendant très longtemps, on a continué à fabriquer des cachets qu'on ne trouve plus maintenant.
Pour cause, tout ça, c'est industrialisé depuis déjà une bonne trentaine, pour pas dire un peu plus, une quarantaine d'années. Alors, il fait effectivement des études de médecine. Alors, assez tardive, on a vérifié,
hein,
donc
oui,
c'est ça, il entre à la faculté à 27 et il en sortira à 34 ans effectivement, assez âgé, et c'est là qu'il va devenir le commis de laboratoire, l'assistant, on dirait aujourd'hui.
Le préparateur
d'un très grand professeur, donc professeur au Collège de France, oui. Le fameux Magendie. Alors c'est la rencontre déterminante de sa vie.
Oui, parce que Magendie est véritablement le premier grand physiologiste. Mmh. C'est lui qui a dans la tête, dans l'esprit, que l'expérience va permettre de tirer des conclusions et que ces conclusions, à partir du moment où elles sont répétées par d'autres expériences, eh bien elles vont aboutir à des résultats tangibles et donc scientifiques. Autrement dit, Magendie va mettre dans la tête de Claude Bernard, qui est une tête bien préparée, hein, tout de même, hein, mais va mettre dans la tête la méthode expérimentale. Parce que finalement, chez Claude Bernard, il y a certes l'expérience qui va le rendre très célèbre, ces fameuses expériences, mais il y a aussi l'expérimentation.
Il faut bien que vous expliquiez la différence entre les deux.
Oui, c'est ça qui est fondamental. C'est que l'expérience, c'est quelqu'un qui est capable de faire une préparation avec un animal, par exemple, pour démontrer quelque chose, qui peut la reproduire, qui peut en créer toute la théorie. Mais l'expérimentation, ça va beaucoup plus loin. Si nous sommes dans un autre monde, c'est celui de la fin du XIXe siècle, avec le positivisme, avec Auguste Comte, avec Renan, avec tout ce mouvement de pensée qui dit l'animal est une machine, l'homme n'est pas autre chose qu'un animal, et donc ces expériences sur ces machines vont nous permettre de tirer des conclusions qui vont être capables de se renouveler et donc d'aboutir à des conclusions définitives.
Alors, cela, évidemment, Jean-François Lemoine, ça veut dire qu'on va utiliser, quand je dis utiliser, surutiliser le matériau animal et donc on va travailler notamment sur des petits chiens.
Hein. Lui, il a deux caractéristiques à ce sujet-là. Il va très vite utiliser le chien et faire des expériences dessus. Et il est marié avec Brigitte Bardot, il faut le savoir. C'est-à-dire il est marié avec une femme qui déteste et qui va s'inscrire même à la société protectrice des animaux. Donc il vit un drame là-dessus. Il vit un drame parce qu'il a compris qu'on ne pouvait pas faire autrement que des expérimentations animales. Et puis il est dans son milieu...
Alors... On ne peut pas faire autrement, mais cette vivisection à l'époque est extrêmement répandue et elle est d'une brutalité qui aujourd'hui évidemment nous sidère un peu.
Soyons clairs, on n'endort déjà pas les hommes parce qu'on ne connaît pas l'anesthésie.
À l'époque, oui.
Donc les animaux, c'est sûr.
Moins encore.
Et puis c'est assez récent la prise de conscience qu'il ne faut pas faire trop souffrir les animaux.
Bien entendu. Et puis de la vivisection, disaient les gens de l'époque, on tirait des conclusions très importantes parce qu'on voyait en quelque sorte l'animal, eh bien, dans des conditions de vie, en quelque sorte, on pouvait le voir directement.
Le voir sécréter, on mettait un petit tube directement branché, on voyait ce qu'il sécrétait. Hein.
Alors évidemment, tout ça va contribuer de manière considérable à dégrader l'image de Claude Bernard, il faut le dire, parce que pourquoi parle-t-on si peu aujourd'hui de ce père de la physiologie, de cet homme si important? C'est en partie, et même disons-le en grande partie, à cause de ça. Et il n'y a pas que sa femme qui a été révulsée, hein, d'une façon générale, ça lui a porté préjudice. Il en était conscient d'ailleurs, puisqu'il l'écrit lui-même en fait.
Certes, mais il dit dans son livre qu'il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'animal, et en particulier le chien, il ne veut pas être bon à être chien au quartier latin à l'époque de Claude Bernard. Hein, parce qu'au Collège de France, il y a beaucoup de chiens qui ont dû passer entre ses mains. C'est vrai qu'il a utilisé beaucoup l'animal. Le chien en particulier parce que c'est un omnivore. Et en particulier, toute la démonstration de la fonction glycogénique du foie, qui est quand même une de ses grandes œuvres, a été faite chez le chien.
J'ai une citation qui résume tout. Il dit « Le physiologiste n'est pas un homme du monde, c'est un savant. C'est un homme qui est saisi et absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit. Il n'entend plus le cri des animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son idée et n'aperçoit que des organismes qui lui cachent des phénomènes qu'il veut découvrir. » C'est pas beau, ça ?
Restons aveugles aux sensibilités extrêmes.
Ça ne plaisait pas à Madame Bernard.
Non, il y a un certain nombre de personnes, évidemment. Alors, d'ailleurs, ça joue aussi un rôle, parce qu'on y vient, je suis en train de préparer tranquillement une comparaison entre Claude Bernard et son principal, le plus célèbre élève, évidemment, Louis Pasteur. Et alors Pasteur, lui, a une vie familiale extrêmement harmonieuse, c'est le grand amour avec sa femme et tout. Alors Claude Bernard est constamment en difficulté, en rupture, en rabibochage qui donne lieu à une nouvelle rupture. Enfin, il a une vie qui, disons-le, n'est pas très harmonieuse, c'est un fait.
Il a une vie difficile. Il faut voir que travailler dans un laboratoire, même au Collège de France, au XIXe siècle, il ne faut pas croire que c'est des conditions extrêmement faciles. Vous savez, on y crève de chaud en été, on y gèle en hiver, il n'y a pas d'eau courante. Pas oublier des détails comme ça, il n'y a pas d'eau courante. Tout est vieillot, le sol est dégoûtant. C'est pas du tout des conditions. Alors, Claude Bernard y est très bien parce que c'est là où a travaillé son maître Magendie. Et lui est très heureux d'être dans... Mais ce sont des conditions difficiles, avec des élèves qui sont parfois de bons élèves, parfois un peu moins bons, avec des critiques, avec un petit peu des bagarres, avec des expériences difficiles à mener, avec des résultats qui ne sont pas toujours aussi flambants que ceux que l'on attendait, enfin bon, c'est
mais
pas
qui
facile.
Sont qui sont essentiels. Et vous parliez de cette découverte de la fonction glycogénique du foie, c'est-à-dire le fait que le foie fabrique du sucre, tout simplement. Ça, c'est une découverte majeure dans l'histoire de la médecine. On y vient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et on s'intéresse cet après-midi à Claude Bernard avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Jean-Noël Fabiani, chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou, professeur également à l'université Paris-Descartes, et Jean-François Lemoine, médecin chez Europe 1.
En vérité, Claude Bernard est un homme qui va faire avancer la médecine. Il veut une médecine fondée sur des preuves, en quelque sorte. Il fait beaucoup d'expériences, on va y venir, et il découvre cette fonction glycogénique du foie. Alors, il faut expliquer l'importance de cette découverte dans l'histoire de la médecine, Jean-Noël Fabiani.
D'abord, cette découverte est la découverte d'un chercheur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de refaire une expérience et de contrôler toutes les expériences qu'il fait. Soyons simples, il prend le foie d'un animal, l'animal est plein de sucre, parce qu'il a mangé du sucre, il lave le foie complètement, il vérifie que une fois que le foie est complètement lavé, eh bien, il n'y a plus de sucre dans le foie, il laisse le foie sur la paillasse, et le lendemain il dit, tiens, j'ai quand même vérifié si j'ai bien tout fait, si c'est bien. Et là, il s'aperçoit qu'il y a autant de sucre que la veille.
Incroyable.
Et donc, comme toujours, la fortune sourit aux audacieux, mais en matière de recherche, la fortune sourit surtout à ceux qui ont de la méthode. Et Claude Bernard est un homme de méthode. Et il va découvrir cette fonction du foie qui est très importante, parce qu'il s'intéresse au diabète, parce qu'il a besoin de savoir quel est l'organe qui, dans l'organisme, est capable de produire du sucre, du glucose. Et donc, il travaille là-dessus. Et là, il découvre cette fonction. Alors, il ne sait pas encore qu'est-ce qui produit dans le foie qui va donner du sucre, le glycogène. Il le découvrira plus tard. Mais il a quand même découvert ce phénomène fondamental, qui est que le foie produit du sucre, est capable de le faire.
Et au passage, il a justifié tous les travaux qu'il peut mener. C'est-à-dire qu'on se rend compte de l'importance de cette part-là de la médecine qui est en pleine évolution. Ça, c'est le début des labos, des laboratoires.
Alors voilà, les laboratoires apparaîtront à l'assistance publique des hôpitaux de Paris à la fin du 19e siècle. Et seulement à la fin du 19e siècle, jusque-là, il n'y avait pour ainsi dire aucun laboratoire, sauf quelques petits embryons dans les services.
Aujourd'hui, ça paraît facile de toutes ces découvertes-là. Ça nous paraît évident de dire que le foie est plein de sucre. Mais par exemple, comment il a l'idée avec une aiguille d'aller stimuler le cerveau pour faire ce qu'il appelle diabète piqûre, c'est-à-dire déclencher la sécrétion de sucre en allant exciter un des nerfs. C'est quand même des trucs, on se demande où il va chercher tout ça, en fait.
C'est un visionnaire, il faut le dire. Et du reste, il ne se contente pas de l'expérience, il en tire des principes et il en tire des méthodes. Ça, c'est d'accord. Fondamental aussi, hein, il faut le dire. Hein.
C'est ce qui justifie d'ailleurs cette méthode. Donc son livre, Introduction à la médecine expérimentale. Et un de mes amis qui travaille à Los Angeles a créé une fondation pour que chaque étudiant qui arrive à Los Angeles en médecine reçoivent, en arrivant le jour de ton inscription, le livre de Claude Bernard.
Oh, bravo.
Et cet ami, c'est Gerald Buckberg, avec qui j'ai travaillé pendant des années. Donc, nous sommes de vieux camarades. Eh bien, qu'il ait eu l'idée, il dit, ce livre est tellement formidable. Il donne tellement l'esprit de ce que doit être la recherche que chaque étudiant en arrivant à UCLA, quand même, c'est pas...
c'est magnifique. Hein,
reçoit le livre de Claude Bernard.
Une grande actualité, c'est finalement, un état, Jean-François
Lemoyne. C'est un état d'esprit, Claude Bernard, c'est ça, en fin voilà. De compte. Et en fait... il est beaucoup trop moderne pour son époque, mais il faut être moderne pour laisser sa trace dans l'histoire. Évidemment, les mecs de l'époque, qui eux étaient encore à faire des saignées, on l'ont trouvé incroyablement, incroyablement compliqué avec ses chiens.
Alors, il va enseigner, lui, à son tour, bien entendu.
Ah oui,
c'est
bien entendu.
Un grand professeur. Il faut dire, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait une vie difficile. Je ne parle pas de sa vie, je ne parle pas de sa carrière, ni de sa vie mondaine, etc. Parce que c'est un homme très reconnu. Il entre même à l'Académie française.
Il est sénateur.
Oui, voilà.
Il a comme un de ses élèves, Paul Bert, quand même,
voilà.
qui va faire, lui, une carrière magnifique, en particulier en Indochine.
Il va être même invité une semaine chez Napoléon III.
Oui, ce qu'on appelle les séries de Compiègne.
Il est passé une semaine quand même.
Oui, donc c'est un grand monsieur. Est-ce qu'on peut employer le terme de mandarin, oui, d'une certaine façon?
Pas tout à fait,
parce que les mandarins, en général, désignent plutôt ceux qui ont des écoles de cliniciens.
Il travaille
dans les hôpitaux. Lui, justement, il travaille dans un laboratoire. Il est donc coupé, entre guillemets, des malades et du monde hospitalier. Mais... maintenant, il serait un mandarin, indiscutablement.
Être invité une semaine au fort de Brégançon, c'est l'équivalent. Imaginez le professeur Fabiani passant une semaine au fort de Brégançon.
Mais l'impératrice Eugénie n'est plus là, cher Jean-François. Alors, en tout cas, s'il y a un mot à retenir de tous ces travaux de Claude Bernard, c'est le milieu intérieur, en quelque sorte. Il faut peut-être expliquer ça à nos auditeurs. L'homéostasie, professeur Fabiani.
Alors, le milieu intérieur, ça veut dire que l'organisme est en bonne santé lorsqu'il est capable de conserver les fluides, c'est-à-dire le sang, c'est-à-dire la lymphe, c'est-à-dire la bile, eh bien, parfaitement équilibré. Ça s'appelle l'homéostasie, le milieu intérieur. Or, et là, ça a sans doute vous amuser, qu'est-ce que disait Hippocrate dont nous parlions tout à l'heure hors micro? Eh bien, Hippocrate, il disait que l'équilibre était fait par les humeurs, où il y avait la lymphe, où il y avait la bile, où il y avait, et ainsi de suite. Or, il faut pas oublier une chose dans notre Claude Bernard. Il connaît quelqu'un très très bien, qui a été important dans sa vie, et qui s'appelle Émile Littré. Or, Émile Littré a passé 20 ans de sa vie à traduire l'œuvre d'Hippocrate et la donne un petit peu comme un testament à Claude Bernard, qui est trop content de retrouver cette notion des humeurs et de l'adapter à la mode moderne, cette fois, et qu'il appelle l'homéostasie. Donc ce petit, il y a un petit clin d'œil, il est en quelque sorte entre ton grand-père, arrière-grand-père Hippocrate et Claude Bernard, parce que en effet, il avait parfaitement, grâce à Littré, il avait parfaitement toutes les idées d'Hippocrate en tête.
Il n'y a pas de circuit sans être un peu initié quelque part, parce que c'est pas, ça n'arrive pas comme ça. Mais quand même, la puissance de raisonnement d'Hippocrate et de Claude Bernard, c'est quelque chose qui me fascine à distance. C'est incroyable. Je lisais encore l'autre jour une citation sur la diététique d'Hippocrate, mais c'est d'une modernité. Ça pourrait être une pub à la radio. C'est invraisemblable quand même que ce qu'a pu dire ce médecin avant Jésus, puisque c'était à 1000 ans avant, je crois.
Qu'est-ce qu'on appelle le syndrome de Claude Bernard Horner?
Ah, c'est un syndrome que je connais en tant que chirurgien vasculaire, oui. Parce que c'est lorsqu'il y a une section, une irritation du sympathique cervical.
Sympathique, et c'est un nerf. Hein.
Le nerf sympathique. Et alors, ça entraîne, ça se passe au niveau de l'œil, la paupière tombe, l'œil rentre un petit peu et la pupille devient toute petite. Alors, ça s'appelle, terme médical, myosis, ptosis et nophtalmie. Et donc, ce syndrome de Claudin Horner qui n'a aucune gravité, hein, mais qu'on voit tout de suite, immédiatement, qu'on voit quelqu'un qui a un... Alors, on dit, oh là là, on a touché le sympathique cervical. Parfois, on veut le faire, parce que dans certains cas, il faut le couper, ce sympathique, pour dilater les artères au niveau des mains en particulier. Donc, le chirurgien va couper. Alors, il dit, ah, ben, mon opération a bien marché, il puisque voit que... l'œil a un syndrome de Claude Bernard Horner.
Vous vouliez de la science, vous en avez eu, là. Oui, hein, mais ça... c'est le nom d'une maladie. Et c'est là où on voit les gens qui ont été majeurs à l'internat, parce que vous m'auriez posé la même question, je ne pouvais pas vous faire cette description-là. Mais c'est qu'il a donné son nom. Et Horner, évidemment, ce n'est pas un accordéoniste de l'époque, c'était un autre médecin qui travaillait avec lui.
À qui travaillait avec.
Oui, mais si vous voulez donner son nom à une maladie, c'était quand même le plus chic. Vous
savez, oui, en tout cas, un syndrome, en fait, hein, parce que c'est pas. Est-ce qu'on peut parler d'une maladie?
C'est un ensemble de signes, quoi.
Ça, voilà. Vous savez, il y a très peu de maladies. C'est difficile de donner son nom à une maladie aujourd'hui. Moi, je ne connais qu'une personne, qui est le professeur Marie-Germaine Bousser, qui a découvert une maladie et qui a refusé d'y donner son nom. Parce que ça aurait été beaucoup plus chic. Mais c'est pas facile, hein.
Alors, j'ai reçu, figurez-vous, par la poste, il y a quelques jours, un ouvrage publié à compte d'auteur par un biologiste bourguignon qui s'appelle Monsieur Pierre-Yves Loriot et qui ose ce que personne d'habitude n'ose faire, c'est-à-dire mettre ouvertement en cause un certain nombre des acquis de Pasteur par rapport, nous dit-il, à ce qu'avait déjà fait avant lui Claude Bernard. Nous y venons dans un instant, ça va être l'objet même du récit.
Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit, Franck, sur la polémique des travaux de Claude Bernard.
J'ai reçu par la poste il y a quelques jours un ouvrage publié à compte d'auteur par un biologiste bourguignon, M. Pierre-Yves Loriot. M. Loriot qui ose dire ouvertement ce que d'habitude on aurait plutôt tendance à cacher. Selon cet auteur, qui est aussi notre auditeur, les travaux de Pasteur devraient en vérité beaucoup, pour ne pas dire énormément, à ceux de son maître et devancier, notre Claude Bernard. Alors, je ne vais pas aujourd'hui reprendre en détail tous les aspects de ces biographies croisées de Claude Bernard et de Louis Pasteur. L'ouvrage est intitulé, tout est dit, « Le maître et l'élève ». Je vous dirai tout à l'heure, si vous le voulez, comment vous procurer l'ouvrage si cela vous intéresse. Pour le moment, et reprenant l'un des développements de M. Loriot, j'aimerais m'attarder sur le débat qui a opposé les deux grands hommes à propos des fermentations. Pasteur, je vous le rappelle, s'est longtemps intéressé à la fermentation alcoolique en montrant que les alcools, je cite la phrase même de Pasteur, les alcools organiques dérivent des sucres par intervention de ferments. Bon, jusque-là, on peut dire que tout le monde est d'accord. En 1860, le chimiste fait une communication à l'Académie des sciences pour montrer, je cite, que la fermentation est due à des micro-organismes vivants, je dis bien vivants, transporté par l'air, ce qui va en quelque sorte marquer l'entrée en scène de ce qu'on appellera les enzymes. Or, plus tard, un autre grand chimiste, Marcelin Berthelot par ailleurs a fait la grande carrière politique que l'on sait, mais il a été d'abord, ne l'oublions pas, un de ces grands scientifiques de la fin du XIXe siècle. Berthelot va revendiquer la paternité de cette découverte, une découverte effectuée, précise-t-il, par le biais des notes posthumes de Claude Bernard. Nous y voilà. Or, Berthelot, d'après Bernard, prétend que les enzymes sont des organismes morts et de nature chimique, alors que Pasteur imaginait, je vous l'ai dit, des levures microbiennes vivantes. Eh bien, c'est là-dessus, c'est sur la nature des ferments que va cristalliser le débat scientifique. Pasteur, pour détruire la thèse de Berthelot, fait ce qui reste dans l'histoire de la chimie comme la fameuse expérience d'Arbois. Il prouve que des raisins mis à l'abri de l'air sous serre ne fermentent pas. Il leur faut, pour fermenter, un apport de germes par l'air ambiant. Manque de soleil et d'air, invoquent ses opposants. Restait à prouver que les ferments étaient microbiens et vivants, et non, comme le pensait Berthelot d'après Bernard, chimiques et non vivants. On dira que la thèse de Pasteur est vitaliste. Or, Bernard avait déclaré, je cite Claude Bernard, « Il n'est pas scientifique de s'occuper de forces vitales. Il ne l'est pas davantage de la nier parce que, en la niant, on affirme autre chose. » Ce que nous voyons se dessiner là, à l'arrière-fond, c'est un débat philosophique sur une éventuelle intervention divine dans le processus biologique. Pasteur y croit, Berthelot croit le contraire. Quant à Claude Bernard, et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement cet après-midi, il renvoie les deux dos à dos. Pour lui, qui est un positiviste pur et dur, attaché à l'empirisme scientifique le plus neutre, pas question de mélanger Dieu et la science. Pasteur, M. Lorioz le reconnaît volontiers, cherche à excuser en quelque sorte la position de Claude Bernard. Claude Bernard est un grand homme qui a rapproché l'anatomie et la chimie de la physiologie, écrit-il. Il a souvent dû utiliser le faux pour débusquer le vrai, et ce fut le cas pour sa théorie de la fermentation. Du reste, Claude Bernard, à propos des fermentations, s'était-il à ce point trompé? C'est pas si sûr. Si l'on en croit un pasteurien pur et dur, un Dolois, donc un concitoyen de Pasteur, M. Roger Gibet, il serait permis d'en douter. Voici ce qu'écrit ce chercheur dans une publication pasteurienne, du reste. On doute aujourd'hui que Bernard se soit trompé quand on sait que sa prédiction s'est réalisée en ébranlant les certitudes pasteuriennes. La cause première de la fermentation appartient bien au biologique, mais l'effet qu'elle donne, les activateurs et les enzymes relèvent de la chimie ou plutôt de la biochimie. Le duel à distance n'a pas répondu à toutes les attentes posthumes de Claude Bernard. Nous savons aujourd'hui que toute fermentation nécessite un ensemencement. Pasteur avait donc raison, mais les réactions sont toutes catalysées par des fermentations solubles qui peuvent agir en dehors de la cellule. Claude Bernard n'avait donc pas tout à fait tort, ni Pasteur entièrement raison. Il faut quand même avoir lu une chose pareille sous la plume d'un pasteurien. Alors, précisons enfin, et ce n'est pas neutre, que ce fameux débat chimie contre vie, en quelque sorte, ce débat si souvent, si abondamment commenté depuis un siècle et demi, et qui constitue finalement le seul vrai point de désaccord formel entre Bernard et Pasteur, n'est pas une véritable querelle, puisqu'elle est intervenue pour Bernard à titre posthume. Comme l'a écrit Duclos, un autre disciple de Pasteur, je cite, « Bernard étant mort, n'a bien sûr pas pu intervenir, et Pasteur a dû discuter avec une ombre ». La vérité, c'est que cette querelle, un brin artificiel, avait été montée de toutes pièces par Berthelot, qui, impatienté par l'avance qu'avait fini par prendre Pasteur dans ce domaine, avait à dessein ressorti le cahier manuscrit de Bernard où le physiologiste penchait pour cette théorie chimique des fermentations. Mais comme le souligne M. Lorioz dans son livre, Claude Bernard était à son habitude demeuré dans une prudente réserve et surtout, il n'avait jamais donné publiquement son opinion. On ne peut même pas affirmer que s'il avait vécu assez longtemps, il serait ouvertement entré en querelle contre Pasteur à ce propos. Si vous voulez vous procurer l'ouvrage de Pierre-Yves Lorioz, eh bien vous n'avez qu'à vous rendre sur son site yves.lorioz, LAURIOZ.free.fr.
Robert Schumann, symphonie numéro 3 en mi bémol majeur.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et on parle cet après-midi de Claude Bernard avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, le professeur Fabiani et le docteur Jean-François Lemoine.
On a donc bien compris que le débat entre Pasteur et Claude Bernard était un débat assez philosophique. Finalement, c'est un débat post-mortem pour ce qui est de Claude Bernard, car il ne se serait sûrement pas permis d'aller discuter avec Pasteur. Il faut souligner cet aspect très important de la personnalité du bonhomme. Il est très discret, très humble, et il ne débat pas volontiers sur la place publique. Jean-Noël Fabiani.
C'est vrai, il préfère, et c'est tout à son honneur comme scientifique, démontrer les choses avec des preuves scientifiques, en partant de l'hypothèse, en apportant les preuves de l'expérience, en vérifiant cette expérience, et enfin arrivant, après discussion, à des conclusions qui s'imposent. Autrement dit, c'est la méthode expérimentale elle-même qui soutient toute l'activité de Claude Bernard.
Et cette méthode expérimentale, elle correspond magnifiquement à l'arrière-fond philosophique du personnage, car il est essentiellement positiviste, disons-le.
C'est un positiviste, c'est-à-dire qu'il croit à la théorie de l'animal-machine, en quelque sorte. Il est dans le grand mouvement, pour tout dire, de cette fin du XIXe siècle, avec toutes ces théories, celles d'Auguste Comte, de Renan aussi, de tous ces hommes qui ne croient plus au rôle de Dieu dans l'élan vital. Et qui, bien entendu, sur le plan politique, sur le plan religieux, va l'opposer à un certain nombre de penseurs de l'époque.
C'est d'ailleurs intéressant de voir que tout ça est un mouvement de balancier, en quelque sorte, et que, en fonction des générations, Dieu s'éloigne ou revient. On pourrait dire qu'à la génération de Pasteur, il a tendance à sérieusement revenir, du reste.
Bien entendu, mais ça, c'est la discussion, heureusement, persiste au cours du temps et de l'histoire, et on peut dire qu'aujourd'hui
et
encore...
Et aujourd'hui, est-ce qu'il est en train de revenir ou pas?
Difficile à dire.
C'est difficile, parce que c'est pas... On sent qu'il y a il y a plein de nouveaux champs de médecine qui s'ouvrent. Hein. Mais je veux dire, la véritable récompense de Claude Bernard, c'est que aujourd'hui, sa méthodologie, sa rigueur, c'est appliqué par tous les médecins. Hein. On doit faire la démonstration, en particulier de l'efficacité des traitements ou des techniques qu'on propose aux malades. Il a fait quand même quelque chose qui est pour nous, qui est de dire ne vous laissez pas donner n'importe quoi, ne prenez pas n'importe quoi, il faut démontrer, c'est la médecine par l'épreuve. Et ça, c'était incroyablement moderne et peut-être éloigné de Dieu, mais en tous les cas, incroyablement moderne.
Alors nous avons vu tout à l'heure un certain nombre de distinctions entre Pasteur et Claude Bernard, du point de vue de la vie, du point de vue de l'image qu'ils ont pu laisser. Ce qu'il faut dire aussi peut-être, c'est que Pasteur travaillait son image, il œuvrait à la postérité, ce qui n'a pas été le cas de Claude Bernard, qui semble-t-il se désintéressait relativement de cet aspect-là.
Il faut bien reconnaître qu'un des grands succès de Pasteur, eh bien, ce sont les instituts Pasteur.
Oui, voilà, hein, pour parler clair.
Et soyons clairs, et qu'il a su comment, on dirait maintenant, comment lever de l'argent pour soutenir sa recherche, lui et ses élèves. Ouais. Parce qu'il a eu autour de lui, il a su s'entourer, Pasteur, d'élèves brillants et qui avaient le sens quelque sorte, de ce qu'on appellerait maintenant le charity business, en quelque sorte. Aller chercher des fonds, lever des fonds. L'Institut Pasteur, il y en avait un à Paris, bien entendu, où tout le monde le connaît, mais il y en avait dans la plupart des autres villes importantes de la colonie française. Vous avez bien entendu celui qu'il y avait au Vietnam, au Cambodge, vous avez ainsi de suite.
Et puis il y avait quand même chez Pasteur la volonté de mettre immédiatement, bien qu'il n'ait pas été lui-même médecin, vous le disiez, hein, il était chimiste, mais il était entouré de médecins et il essayait d'appliquer immédiatement les découvertes, d'une part dans le domaine industriel, hein, avec les levures de bière, etc., mais aussi dans le monde, dans le domaine de la médecine. Il fallait que les découvertes, que les progrès soient immédiatement sensibles et palpables par l'opinion, en quelque sorte, ce qui n'est pas non plus une préoccupation de Claude Bernard, qui n'est pas très intéressé par ses applications immédiates.
Mais vous avez parfaitement raison, et on est, pour tout dire dans l'histoire de la médecine, à un tournant entre des gens qui, soit en clinique, soit en biologie, ne font que décrire, parce qu'on ne sait pas encore comment on va soigner les gens. On ne sait pas soigner le diabète, on ne sait pas soigner les maladies infectieuses, on ne connaît pas tout ça.
On ne sait pas d'où ça vient.
On ne sait pas d'où ça vient, on est en train de les décrire. Et puis arrive la période pasteurienne, il faut bien reconnaître, et tout ce mouvement... De thérapeutique, en quelque sorte, qui va permettre véritablement de tout changer, compris la forme des hôpitaux.
Et voilà.
Parce que Pasteur
et
arrive.
Les moins malins faisaient de l'anatomie, je sais que ça va peut-être pas plaire aux chirurgiens, c'est-à-dire qu'ils dessinaient, ils étaient capables de tout reproduire. Et puis les plus malins essayaient de comprendre comment ça marche. Et c'est tellement différent entre regarder et comprendre comment ça marche. C'est la différence entre Claude Bernard et certains de ses...
Et puis c'est la différence entre le statique et le dynamique, enfin, etc.
Tout à fait.
On est dans une...
Et puis il fallait comprendre comment ça... Parce que faut avoir les circuits bien imprimés pour comprendre comment tout ça fonctionne.
On peut dire aujourd'hui que ce qu'a découvert Claude Bernard à l'époque où il l'a fait, il était le seul à pouvoir le faire. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il était simplement le produit de son temps ou est-ce qu'il a vraiment fait lui-même avancer les choses? Est-ce qu'il est un élément moteur dans le progrès scientifique?
Question toujours difficile.
Ouais. Oui, bien sûr. Ouais,
mais incontestablement, Claude Bernard est un géant.
Ouais.
C'est un géant, c'est-à-dire que c'est une très... forte personnalité, ouais, que c'est un homme d'une intelligence exceptionnelle, et c'est un homme d'une rigueur exceptionnelle.
Mais je crois quand même, Jonel, c'est parce qu'il est hors de son temps, qu'il arrive à avoir des idées que les autres n'ont pas. Si on reste dans le moule, vous savez fort bien que, rester dans le moule, on continuera à faire des saignées s'il n'y avait pas eu des gens comme
ça. Il fallait être notamment capable, à cette époque où on ne disposait pas des moyens scientifiques pour y atteindre, d'imaginer l'infiniment petit, par exemple.
Ah, Pasteur, c'est extraordinaire. Mais lui, qu'il ait continué à bosser sur les animaux alors que ça se passait pas bien autour de lui, quoi. Il était bon, mais faut être un peu obsessionnel. Hein.
Faut avoir un grand caractère.
Intelligent, obsessionnel, ben voilà, vous avez le schéma du chercheur de demain.
Ces histoires insolites qui ont fait la médecine, il y a deux tomes chez Plomb,
formidable,
de Jean-Noël Fabiani. Alors on en avait déjà parlé et on en reparlera, parce qu'on parlait tellement bien de la médecine
formidable.
Vous êtes d'accord, vous reviendrez nous raconter ces
volontiers
belles histoires de la médecine. Et puis alors, vous venez de publier, toujours chez Plomb, Le chirurgien et le marabout. Et alors ça, c'est autobiographique, ce sont vos tout débuts de médecin humanitaire, de chirurgien humanitaire.
J'ai essayé, pour l'avoir vécu, de rappeler quels ont été les débuts de la médecine humanitaire en France, c'est-à-dire le début de Médecins sans frontières que j'ai vécu et les premiers voyages, en quelque sorte, que j'ai fait en Afrique, puisque c'est en Afrique qu'on m'avait envoyé. L'Afrique, je la connaissais parce que j'avais lu Tintin au Congo, hein, donc j'avais très peu d'expérience et je me suis retrouvé comme chirurgien-chef d'un hôpital de Brousse. Et avec mes petits camarades.
Ah, au pied du mur, là, vraiment.
Ah oui, complètement au pied du mur.
C'est une très belle expérience donc que vous racontez dans cet ouvrage, Le chirurgien et le marabout. Et alors, aux marges de la médecine, quoique, cher Jean-François, vous avez publié un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé et que sur la perte de poids.
Oui, itinéraire d'un ex-gros ou l'aventure d'un gros animateur de radio qui veut mettre en pratique ce qu'il dit tout de son à l'antenne. Et j'avoue que c'était une aventure formidable.
Ça ressemble à du vécu.
Oui. Eh bien, je rajouterais juste pour l'histoire de la médecine humanitaire, si on cherche quelque chose sur le XXe siècle, bah c'est ça aussi, la grande idée de la nouvelle de la médecine.
Ah, hein, oui, bien sûr. Oui.
Vous êtes d'accord? Et vous me laissez prendre Jean-Noël Fabiani dans mon émission sans que ça vous pose de problème?
Mais non,
à la rentrée.
Je veux bien le prêter. Je veux bien vous le prêter. Après tout, c'est vous qui me l'avez présenté. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis alors, un grand merci à Lorena, à Marion, à Fabrice et Guillaume qui m'ont accompagné, soutenu, qui ont préparé cette émission pendant toute l'année. C'était la dernière émission en direct de cette saison. Figurez-vous, je suis heureux de l'avoir faite avec vous,
écoutez,
Jean-François
pour
et
moi
Jean-Noël.
Aussi,
nous nous retrouverons à la rentrée, évidemment, non plus à 13 mais à 14 heures, avec une version d'Au cœur de l'histoire encore plus dynamique. Vous allez voir, nous sommes en train de vous préparer cela aux petits oignons. Bonne été et bonnes vacances à tous et donc
merci.
À très bientôt. Pendant tout l'été, vous entendrez Au cœur de l'histoire, mais cette fois en rediffusion. On essaiera de choisir un certain nombre des grands moments de cette année et je crois d'ailleurs que parmi ces grands moments, il y a Jean-Noël Fabiani et ce que nous avions raconté sur cette histoire de la greffe cardiaque. Monsieur Claude Bernard a donc 200 ans, et bien j'espère que nous avons un peu contribué aujourd'hui à rappeler à nos auditeurs qui il a été et quel a été l'incroyable apport de ce grand seigneur de la médecine.